ensemble sur ce Seine. Et dans notre voyage, nous allons bientôt arriver au Havre, terme de ce voyage que nous abordons à présent par une de ces banlieues qui s'appelle Sainte-Adresse. Et comme la Seine est un fleuve imprévisible, nous sommes heureux de vous montrer là, ce matin, Vincent Deck et moi, la capitale de la Belgique. Car nous aurions pu être ici, en Belgique, dans la capitale de la Belgique, entre 1914 et 1918. Nous sommes donc dans cette banlieue du Havre, dans cette Sainte-Adresse dont parle Mérimée dans sa célèbre dictée. Et nous sommes sur l'avenue des Régates, sur le front de mer, une avenue qui est une copie de la promenade des Anglais. Il n'y a pas sur les bords de la Seine, contrairement à ce que vous pourriez croire pour nous avoir écoutés, Vincent et moi, depuis quelques semaines, il n'y a pas sur les bords de la Seine que des chefs-d'œuvre du classicisme, de l'art roman ou de la mystique. Non, il y a aussi les chefs-d'œuvre du kitsch et de la thune, comme à Samoa avec les affolantes des bords de Seine dans le genre villa ou ici dans le genre monumental. Ces bâtiments effroyables dégagent une curieuse tristesse roumaine et salée. Et on se demande dans quel esprit malade est venue l'idée de transporter Nice sur les bords de l'Atlantique. Peut-être simplement que les palmiers niçois nous manquent et je dois dire, pour employer le langage des guides, que rien de tout cela ne vaut le détour, sauf pour parler de Dufayel et bien sûr pour parler de la Belgique, un pays que nous aimons tendrement. Pourquoi Dufayel ? Parce que c'est à partir de 1905 que cet homme d'affaires étonnant créa le Nice Havrais à partir de rien. Personne ne se souvient plus de Dufayel, auquel en son temps Apollinaire a consacré son premier article de journaliste. Dufayel a pourtant inventé vers 1890 quelque chose qu'on utilise toujours maintenant et qui est le mélange du grand magasin d'ameublement et du crédit à la consommation. Et pour lui, les architectes Lebeg et Rive avaient édifié un ensemble absolument monstrueux, qui ressemblait un peu au grand temple bancaire du comptoir d'escompte ou du Crédit Lyonnais. Et ce sont des bâtiments dont les vestiges subsistent à Paris. Quand on va au 26 de la rue de Clignancourt, on voit un gigantesque quadrilatère d'un peu plus d'un hectare, qui est délimité par le boulevard Barbès, la rue de Clignancourt, donc la rue Christiani et la rue de Sofia. Et c'est une espèce de gigantesque palais monstrueux qui aujourd'hui a été transformé. Mais c'était autrefois le gigantesque palais monumental de Dufayel. L'entrée était ornée d'un fronton de Dalou et de sculptures de Falguière et était coiffée d'un dôme qui représentait un phare éclairant Paris. Alors le dôme et le phare ont disparu, mais en fait, quand même, quand on voit tout ça, on se dit qu'on n'a jamais été plus timbré qu'à cette époque. Parce qu'il est vrai que Dufayel n'était pas du tout raisonnable. Son entreprise, au fond, mais qui a par ailleurs magnifiquement réussi, son entreprise rappelle vraiment la tour de Babel. Ce quadrilatère de Rochechouart présentait une étendue monstrueuse, la faisait ressembler à une sorte de place Saint-Marc multipliée par 100 par l'effet d'un jeu de miroir. Le porche, par exemple, dont je viens de parler, le porche de Falguière, il évoque l'entrée d'une gare monstrueuse d'où d'immenses trains ne partiraient pas, et celle d'une cité tout sauf interdite et ouverte au contraire à des rencontres absolument improbables. C'était d'ailleurs une cité étrange, on pouvait y aller au théâtre, au cinématographe, on pouvait rêver dans le jardin d'hiver. Dufayel y faisait donner des concerts, des conférences, des réunions scientifiques, et on paierait plus tard. Et pendant que le chaland errait dans le dédale du luxe à bas prix, protégé par deux statues qui l'une représentait le crédit et l'autre la publicité, et rêvant sur de monstrueuses chambres à coucher en noyer ciré avec des lits monumentaux prêts à supporter les ébats sexuels les plus vigoureux, éblouis par des centaines de candélabres et de tableaux, par les stucs, multiplié lui-même à l'infini par un jeu de glace absolument invraisemblable, bref, le chaland, rêvant de consommation à la fois sociale et lubrique et récréative, bref, pendant que le chaland déambulait, en même temps, des agents se présentaient chez sa concierge et s'enquéraient de ses habitudes et de sa capacité à honorer ses échéances. C'était le premier mélange, en réalité, de la réclame, du commerce et de la police, à quoi l'époque de l'Internet a donné, comme on sait, une extension absolument considérable. Alors, il y avait là-dedans une sorte d'accumulation maboule. Et cette accumulation est d'époque, elle est intéressante. Les créateurs du Titanic aussi, par exemple le Pagot, avaient attendu de grandes choses de l'accumulation. Et au fond, le Titanic, c'est une sorte de quadrilatère de Dufayel lancé à la rencontre des icebergs avec le café français, le hammam turc, la bibliothèque anglaise voguant sur des abîmes glacés. On peut quand même, cela dit, relever de bons côtés dans cet éclectisme dément, comme le fait que Dufayel ait fait travailler Jean Dupas. Alors on s'en étonne un peu parce qu'il y a chez Jean Dupas, qui est très oublié aujourd'hui, une vitalité créatrice mal accordée à la monomanie du capitalisme commercial. Dupas était un artiste étonnant qui passait de l'art sacré au catalogue des fourrures Max et du grand salon du Normandie qui fait ressembler le Titanic à un saloon du Kansas, au métro de Londres ou du palais des colonies, à des maisons privées qu'il décorait. Et je suis content que Dufayel, ça serait un peu décourageant, nous donne l'occasion de nous souvenir de Dupas, artiste rêveur et monumental, une sorte de bouteille de Montvel défiguré par Dali ou un Lempicka qui se serait perdu dans les arcades de Quirico. Parce que pour le reste, franchement, le satanisme de Dufayel ne se laisse pas oublier. Je me suis demandé à quoi ça ressemblait, enfin, ce que c'était, ce que ça voulait dire. Au fond, ce satanisme, je pense, ne tient pas seulement à l'alliance méphitique de la consommation et du crédit, de la vente sur réclame et de la police privée, ou à ce goût de l'accumulation dont je viens de parler. En fait, ce satanisme dufayelien tient à cette manie du déplacement, à cet idéal de la transplantation, déplacement et transplantation destinés à montrer que l'argent peut tout, et dont on peut voir aujourd'hui les fâcheux résultats, là où nous sommes, à Sainte-Adresse. On croirait un cauchemar d'Elon Musk organisé par Bofill. C'est affreux, mais c'est plus fréquent qu'on ne croit. Par exemple, je me souviens d'avoir vu vers 1980, sur le port de Bordeaux, une folie bordelaise du 18e démontée pièce par pièce pour être remontée, pierre numérotée, dans le Nebraska. Il y a par exemple les cloisters, c'est les cloîtres de New York, encore qu'un cloître soit transportable par nature, parce que, au fond, un cloître n'a pas à voir avec l'ici-bas, mais avec l'ailleurs, et vise à reproduire partout un ordre foncièrement déraciné. Il est donc moins choquant de déplacer les cloisters que Nice. Mais ce qui nous fascine ici, ce n'est pas l'effarant, mauvais goût diabolique de Dufayel reconstituant Nice sur les bords de l'Atlantique, c'est que l'histoire a mis, au fond, un point d'orgue à la folie d'un homme. Dufayel avait transporté donc Nice au Havre, ce qui était déjà risible. En 1914, le gouvernement belge, lui, transporte Bruxelles dans le Nice havrais, c'est-à-dire qu'il fait du Nice havrais la capitale de la Belgique. Alors que la Belgique soit partout chez elle, dès lors qu'on aime la poésie de l'existence, personne n'en disconviendra, et surtout pas un amateur de Simon Leys, de Nouget et de Simenon. La Belgique est un Congo blanc, propice à toutes sortes d'aventures extraordinaires. Mais enfin, malgré tout, cette capitale-là nous coupe littéralement le sifflet. Des ministères belges y habitèrent pendant 4 ans, comme dans un Vichy Atlantique, 1000 personnes colonisant les hôtels. On y imprima des timbres-poste et l'on y fit même exploser accidentellement une mine d'armement, comme quoi les États, en exil ou non, font toujours ce qu'ils peuvent. Il faut porter au crédit d'Albert Ier, le roi chevalier que tous les Français ont aimé, qu'il ne vint jamais à Sainte-Adresse, parce que c'était un homme de goût, qu'il ne s'établit jamais dans le Nice Havrai, bien qu'on puisse y voir aujourd'hui sa statue monumentale devant laquelle nous sommes passés tout à l'heure, et qu'il soit possible d'arpenter le boulevard auquel il a donné son nom. Quant à Dufayel, il connut une fin de vie paisible, ayant adopté pour devise « bien faire » et « laisser dire ». Il nous aurait laissé dire du mal de lui en particulier, même si je ne suis pas absolument convaincu qu'il ait totalement bien fait. Il avait fini par acquérir une maison sur les Champs-Élysées, il y avait fait construire par Rive une sorte de palais. La vérité oblige à dire qu'il ne parvint pas à habiter ce palais, parce que le palais était trop somptueux pour lui, il se contenta donc d'une petite maison dans la cour, d'où il observait sans cesse son palais vide. Dufayel mourut sans femme ni enfant, et a eu quand même la bonne idée de léguer à ses employés son immense fortune, à une seule condition. L'argent ne pouvait aller à un employé qui avait à se reprocher un seul jour de grève. Reposons nos yeux au spectacle de cette mer couleur d'argent liquide et quittons sans regret le Nice Havrai et Dufayel.